Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Un concert test ce week-end à Bercy, un festival en plein air ce soir à Lyon, des spectateurs dans les stades, des avions qui recommencent à voler, un pass sanitaire validé par le Conseil constitutionnel, une nouvelle étape du déconfinement dans 8 jours et surtout des chiffres de l'épidémie qui chutent quand grimpent ceux de la vaccination ouverte désormais à tous les adultes. Bref, des signes encourageants alors que les beaux jours reviennent, mais toujours la crainte d'un rebond et des variants, la bataille pour reprendre la vie d'avant est-elle gagnée? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, 3 invités sont en direct avec nous aujourd'hui dans ce studio. Nous sommes avec Jean-Pierre Masse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président des entreprises du voyage et nous sommes au téléphone avec Didier Fusillé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'établissement du parc et de la grande halle de la Villette qui accueillera du 9 au 12 juin le festival de flamenco de la Villette, lequel réunit des grands noms, des jeunes talents et propose des spectacles inédits. Et nous sommes également en ligne avec Mickaël Oliou-Barton. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Dauphine, Paris Sciences et Lettres, et chercheur associé au Centre d'économie politique de SAD. Jean-Pierre Masse, la situation sanitaire est donc en train de s'améliorer, tout le monde s'en félicite, et les mesures de restriction se desserrent progressivement. Des avions recommencent à voler. Est-ce que dans le secteur du voyage, vous voyez un vrai rebond et dans quelle proportion?
Alors, on assiste très clairement à un rebond, c'est-à-dire qu'on est parti de rien. Entre le 1er janvier et le 30 avril, le niveau d'activité du secteur du voyage représentait 15% de la même période de 2019, c'est-à-dire 85% de chute. Donc, partant de rien, le rebond est significatif. Depuis le 1er mai, ou depuis le 19 mai, selon les typologies d'acteurs du voyage, les acteurs en ligne le 1er mai, les acteurs physiques le 19 mai, on est revenu à peu près au niveau de 2019, jour par jour. Mais on n'a pas rattrapé le retard. Donc, on est optimiste, mais un optimisme très mesuré. Très mesuré, parce qu'on a été optimiste de la même façon en juillet dernier, et on s'est vautré au mois de la seconde quinzaine du mois d'août.
Oui, vous êtes un petit peu échaudé, donc prudent.
Prudent, mais il y a quand même des choses qui ont avancé, notamment la vaccination et le pass sanitaire.
Ouais, on va en parler évidemment. Didier Fusillé, le festival de flamenco que vous accueillez à la Grande Halle de la Villette à partir du 9, d'abord il est confirmé.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est une chance pour nous, évidemment.
Ouais, ouais. Vous en attendez quoi en termes d'affluence?
Écoutez, vous savez, nous sommes sur des jauges extrêmement réduites, puisque ce sera 35% en intérieur, en salle intérieure, 35% de la jauge normale. Donc on aura à peu près 400 personnes dans la salle. Nous l'avions fait déjà pour le festival de jazz au septembre dernier. Et je dois dire qu'on est prêt, évidemment, les places sont vendues, mais nous avons organisé aussi un festival de musique, celui de le week-end dernier, Villette Soli, et on a accueilli 4000 personnes.
C'était dans le parc, ça.
C'était dehors, oui, c'était dans le parc, et on voit le public quand même très heureux de recommencer, quoi, de revenir, en tout cas.
Oui, question subsidiaire, quel sera pour la Grande Halle le protocole sanitaire, vous en avez un peu parlé, et est-ce que, avec l'enthousiasme, il est facile à faire accepter au public qui se rend dans ces festivals?
Oui, parce que le public, je crois, a compris, a entendu toutes les contraintes, cette nécessité absolue déjà de ne pas se contaminer, mais de ne pas contaminer les autres si on l'était. Et donc, tout le monde a respecté. Dehors, nous étions assis, donc c'était évidemment très étrange pour un festival de musique, et notamment de musique électronique. Mais le public a respecté cela, donc on était sur une ambiance. En tout cas, ce qui va se passer, je pense, dans les salles de spectacle, c'est que l'ambiance va être très, très singulière.
Mickaël Oliou-Barton, tout ça c'est évidemment encourageant. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, prédit une croissance solide pour le deuxième semestre de cette année. Est-ce que ça se mesure déjà ou c'est encore un peu tôt? Et est-ce que effectivement c'est si solide que ça?
Alors c'est vrai que les chiffres sont vraiment très bons, sont même meilleurs que toutes les prévisions qu'on aurait pu voir en termes de... Et en même temps, il y a une menace de reprise qui ne peut pas être ignorée. Et c'est vrai que pour garantir une certaine croissance économique, ce qui est important, c'est d'avoir d'éliminer l'incertitude. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui plane comme un risque. Et comment est-ce qu'on élimine cette incertitude? Le mieux, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui se passerait si jamais il y a un rebond épidémique? Qu'est-ce qu'on ferait si c'est un rebond épidémique dans un département ou si c'est un rebond plutôt national? C'est pour ça que le pass sanitaire, c'est un outil de plus qui permettrait de contrer cette incertitude en disant, bon, quoi qu'il arrive, on va refermer tout, on n'est plus à se confiner comme on l'a vécu dans les troisième vagues. Si jamais il y a un rebond, on remplacera les fermetures, les limites de jauge par un usage plus généralisé du pass sanitaire. Et donc, ça serait une façon de donner un peu plus de, un peu plus de stabilité aux 6 mois qui viennent.
Mmh. Jean-Pierre Mas, il y a des pays qui commencent à rouvrir. Je pense notamment aux vols qui reprennent à partir d'aujourd'hui avec l'Algérie. Ça concerne de nombreux Français qui n'ont pas pu aller voir leur famille depuis plus d'un an. Aujourd'hui, au départ de la France, et dans la perspective de l'été et des vacances, puisque vous vendez des voyages, qui ne sont pas d'ailleurs uniquement en avion, on peut aller où et quels sont donc vos espoirs pour cet été?
Alors, la question que vous posez est complexe, ou tout au moins la réponse est double. Où peut-on aller et d'où peut-on revenir? Globalement, on peut aller quasiment où on veut, si le pays dans lequel vous allez vous laisse rentrer. La France ne retient pas les gens qui résident en France. En revanche, le problème se pose pour le retour. Pour le retour, on ne peut revenir en France que d'un pays de l'Union européenne, ou avec un motif impérieux d'un certain nombre de pays orange, ou avec un motif impérieux et une quarantaine des pays qui sont rouges. Donc très peu de trafic. Alors quand vous me parlez de l'Algérie, c'est la même situation pour le Maroc et la Tunisie. Le Maroc et la Tunisie ont des flux touristiques plus importants que l'Algérie n'en a, mais l'Algérie a des flux affinitaires, familiaux, extrêmement importants. Il est possible d'aller en Algérie aujourd'hui. On n'a aucune certitude sur le fait qu'il soit possible de revenir en Algérie. Il faudrait que l'Algérie intègre la catégorie des pays verts. Et on a un conseil de défense demain soir qui nous dira si cet élargissement se fait aux pays du Maghreb, ce qui aurait du sens.
Didier Fusillé, tous les festivals ne reprennent pas. Je pense notamment, on a eu l'annonce cette semaine à Rock en Seine. C'est à la fin de l'été, traditionnellement. C'est le dernier week-end du mois d'août ou début septembre. Qu'est-ce qui empêche ce festival ou d'autres de revenir à la normale? C'est les difficultés de programmation ou c'est les jauges sanitaires, les protocoles sanitaires qui sont exigés?
Eh bien, vous savez, pour des festivals comme Rock en Seine, ils ont l'habitude d'avoir de grandes affiches américaines, par exemple australiennes. Donc là, on sait que déjà, ces artistes ne tournent pas. Tous les anglo-saxons ne tournent pas cette année en Europe. Donc ça nécessite pour eux quand même, pour tenir le rang du festival, de monter des scènes quand même considérables. Un aménagement du site Pont-de-Sèvres qui est très coûteux. Et donc on peut entendre effectivement la réticence des organisateurs que je connais bien par ailleurs. Je crois qu'ils vont faire une formule un peu quand même plus light, mais ils vont quand même ouvrir a priori si j'en sais quelque chose. Mais enfin, ce n'est pas sûr. Et nous, même à la Villette, où nous avons par exemple un festival de cinéma en plein air, où nous accueillons chaque soir entre 8 et 9 000 personnes, la question se pose d'accueillir moins de 1000 personnes. Donc, du coup, pas de nécessité de passe sanitaire. Et parce que dès qu'on passe 1000 personnes, évidemment, là, il faut un test, il faut la double vaccination, et c'est plus compliqué. Donc, effectivement, entre les vieilles charrues, par exemple, vont avoir lieu, les francopholies à la Rochelle, sans doute.
Jazz à Marciac, me signale discrètement Jean-Pierre Mas à l'instant. Jazz à Marciac aussi.
Ah bah. Eh ben, c'est parfait parce que c'est un grand festival, mais ça commencera par le printemps de Bourges, je crois, qui va ouvrir aussi. Donc effectivement, toutes les situations sont différentes.
Mmh. Justement, donc Mickaël Oliou-Barton, là on va en reparler évidemment avec Didier Fusillé, mais il évoquait le pass sanitaire. Vous le voyez comme une contrainte, une opportunité ou une nécessité? Vous avez déjà un peu commencé à nous en parler, mais est-ce que vous pouvez un peu développer ça, s'il vous plaît?
Alors, je dirais pas comme une contrainte. C'est sûr qu'on préférait ne pas avoir le risque sanitaire et pouvoir reprendre la vie normalement. Maintenant, on a accepté de vivre avec le virus, avec une certaine circulation en Europe très importante. Donc, c'est vraiment une opportunité. opportunité, ce n'est pas encore une nécessité. Mais ça peut le devenir assez vite. Donc c'est pourquoi ce que nous préconisons, c'est qu'eux, ils soient...
On va essayer de vous rappeler, Michael Oliou-Barton, parce que la qualité de la liaison depuis le début de l'émission n'est pas très bonne. On va essayer de régler ça. On va évidemment revenir vers vous. On vous rappelle, Jean-Pierre Hamas, vous, ce passe sanitaire dans votre secteur, vous le voyez comme une contrainte, une opportunité ou une nécessité? Est-ce que c'est une chance, quelque part, de pouvoir avoir une sorte de niveau minimum d'activité?
Ce qui serait idéal, c'est de pouvoir voyager sans aucune contrainte sanitaire. L'environnement sanitaire fait qu'il y a des contraintes. Le pass sanitaire, c'est ce qui va fluidifier les déplacements, faciliter les déplacements. C'est un outil technologique, c'est un support, un QR code qui est sur votre téléphone, c'est uniquement cela, et qui va permettre de savoir si vous êtes vacciné, si vous avez subi un test PCR récemment, ou si vous fabriquez des anticorps, c'est-à-dire si vous avez un test sérologique positif. Et donc, dans les trois cas, vous pourrez voyager. L'Europe s'est mis d'accord et la France n'a pas encore adopté cette méthode-là pour dire si on est vacciné, on peut voyager librement en Europe. Et si on n'est pas vacciné, il faut fournir un test PCR négatif ou un test sérologique positif. Donc, c'est une très grande avancée pour faciliter les voyages. Et ce qui me surprend le plus... c'est que les voyageurs, les populations, mais je pense que c'est la même chose pour les festivaliers ou pour les amateurs de théâtre, acceptent parfaitement cette idée de passe sanitaire. Ils en ont marre d'avoir passé 14 mois sous cloche. Ils ont envie de vacances, de grand air, de liberté, de festivals, de concerts. Ils ont envie de tout ça et ils accepteront les contraintes pour pouvoir y accéder.
Didier Fusillier, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des festivals qui hésitaient à atteindre la jauge de 1000 personnes pour se passer de ce pass sanitaire. Vous le voyez comment? C'est plus une contrainte pour vous, pour organisateur de festivals?
Ben, évidemment, pour un voyage, on comprend bien que prendre un avion, et je pense que vous avez raison, ce pass sanitaire, c'est quand même un atout essentiel. Pour un spectacle, vous êtes chez vous, vous voulez sortir, à chaque fois, bon, évidemment, si vous êtes vacciné avec les deux doses, donc c'est plus simple, hein, l'application est très bien faite, anti-Covid, vous montrez votre QR code et vous entrez, mais si vous n'avez pas, vous n'avez pas pu vous faire vacciner, vous êtes plus jeune, est-ce que vous allez aller en pharmacie, dans un laboratoire pour avoir ce test à chaque fois que vous êtes au spectacle? C'est vraiment quand même une question que nous devons nous poser. Je pense qu'on le fera pour un artiste qu'on veut absolument voir. L'Opéra de Paris a annoncé que tous les spectateurs devront avoir un pass sanitaire et donc ou la double vaccination ou un test récent. Mais pour des théâtres plus fragiles, la question se pose tout de même.
Michael Oliou-Barton, on vous a retrouvé. Ce pass sanitaire, est-ce que du point de vue économique, il permet, peut-être que je me trompe, hein, mais de maintenir un niveau d'activité minimum?
Oui, économiquement, il est très intéressant parce qu'il permet justement de remplacer les limites de jauge par des jauges plus limitées, mais avec un pass sanitaire à l'entrée. Donc c'est vrai qu'en ce sens, c'est très positif. Ça permet aussi d'ouvrir des établissements pour lesquels il n'y a aucune solution. Par exemple, les discothèques, les bars, sans restriction, avec un pass sanitaire, pourraient s'ouvrir, puisque en cas de cluster, on a les moyens d'alerter les personnes concernées. Donc c'est vrai qu'économiquement, le pass sanitaire offre des garanties. Je comprends ce qu'on disait, qu'il y a une grande différence entre voyager et aller au théâtre, aller au cinéma. En même temps, il s'agit de la même chose. Il s'agit de minimiser le risque de rebond épidémique. Donc une fois qu'on voyage, on évite de réimporter le virus dans les endroits où le virus circule moins. Quand on va dans un concert, on n'a pas envie non plus de créer des clusters qui vont remettre une vague épidémique sur notre terrain et qui vont devoir provoquer la saturation des hôpitaux et la fermeture de certains lieux. Donc c'est vrai que le pass sanitaire empêche tout ça. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ça permet de rassembler seulement des gens qui ont été testés, vaccinés ou immunisés. Donc la probabilité qu'il se passe quelque chose est beaucoup plus basse. Et si jamais il se passe quelque chose, on peut plus simplement les alerter. Donc c'est vrai que ça offre des garanties qui sont c'est une opportunité à saisir. Et en même temps, on comprend bien que ça pose des questions pratiques et éthiques qui ont besoin d'être débattues en profondeur.
Manifestement, ça n'a pas posé de problème au Conseil constitutionnel qui a validé ce pass sanitaire aujourd'hui. Jean-Pierre Mas, dans le secteur aérien, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'une des questions qui se pose avec ce pass sanitaire, c'est l'interopérabilité entre les différents pays européens, voire entre les différents continents, parce qu'il y a quand même des liaisons intercontinentales, notamment transatlantiques, qui sont pratiquement entièrement coupées depuis plusieurs mois. Comment est-ce que les entreprises du voyage travaillent là-dessus? Comment est-ce que les compagnies aériennes, d'ailleurs, travaillent là-dessus?
Alors, à l'intérieur de l'Europe aujourd'hui, on peut quasiment dire que la circulation est libre. Ou presque libre, hein, test ou vaccin, quel que soit le pays européen. À l'extérieur de l'Europe, c'est très compliqué. Et les compagnies aériennes ont du mal à ajuster leur offre de sièges parce que la demande dépend des contraintes administratives liées au voyage. On prend l'exemple des Émirats. Les Émirats sont passés subitement, il y a une dizaine de jours, en liste rouge. C'est-à-dire que c'est difficile d'y aller, surtout si on en revient, on est contraint à une quarantaine de 7 jours, une septaine. Donc c'est pas très très commode pour le tourisme. Donc il a fallu que les compagnies aériennes qui desservaient les Émirats adaptent leur offre de sièges à cette nouvelle situation. C'est un boulot très compliqué pour les compagnies aériennes. Elles hésitent à mettre beaucoup de sièges en vente, ce qui fait qu'il y a toujours une petite tension sur les prix, alors qu'on s'attendait à une chute des prix. Elles hésitent à mettre des sièges en vente pour cette raison.
Alors, même le sens de ma question, en fait, c'est est-ce qu'il va y avoir une espèce de passe sanitaire du secteur aérien entre compagnies? Est-ce que
non,
c'est prévu
ou... Non. Les compagnies, pour l'instant, se plient aux exigences des États. Elles n'ont pas d'exigences spécifiques à elles. Il y a eu une tentative d'une compagnie qui a imposé le vaccin pour monter à bord en Australie, je crois, mais ça n'a pas eu, ça a fait long feu. Hein. C'est l'exigence de l'État dans lequel on va qui va faire que pour accéder à l'avion, il faudra être vacciné, avoir un test PCR, etc.
Didier Fusillier, est-ce que globalement, vous souhaitez aller le plus vite possible vers une reprise totale ou de la manière la plus sécurisée possible? On sent évidemment qu'on a envie d'aller rapidement vers une vie un peu normale, mais est-ce que vous comprenez qu'il y ait des contraintes qui font aller les choses de manière progressive?
Non, mais bien sûr, évidemment, nous sommes, vous savez, nous avons participé à beaucoup de réunions autour de la ministre de la Culture, évidemment, avec tous les opérateurs. On est évidemment très très préoccupé par cette situation et je dois dire que je ne pense pas qu'on ait eu de cas de cluster d'après ce qu'on sait nous aujourd'hui dans des théâtres avérés ou dans des salles de concert. Et donc il y a eu ce test, vous en parliez, ce concert test qui peut-être nous donner des solutions. Mais on sait que ça va rouvrir à partir du 9 juin, on va passer à des jauges de 60%. De jauge, et puis après, normalement, si tout se passe bien, on passera à 100% de jauge à partir du mois de juillet. Et notamment pour les musées, là, vous savez, nous avons la grande exposition Napoléon en ce moment, qui connaît un très grand succès. C'est sûr qu'on voit bien une attente du public, et nous sommes là pour les informer aussi. Je crois que c'est très important. Beaucoup de villes veulent organiser des concerts, mais ne savent pas comment faire. Et on essaie effectivement de trouver des solutions, de donner les bonnes pratiques. Donc non, nous on ne souhaite pas que ça ouvre le plus vite possible, mais effectivement le problème c'est de bien faire comprendre aux gens où ils vont. Parce que aller encore une fois au concert, aller dehors ou aller dans une salle, c'est différent. Et je crois que le public a besoin de beaucoup d'informations.
Michael Oulu-Barton, cette date du 9 juin, dans 8 jours, avec élargissement des jauges, avec ouverture, avec distanciation des salles de restaurants, est-ce que tout ça c'est attendu par les acteurs des secteurs concernés, par les acteurs économiques?
C'est vrai que la date était fixée avant d'être sûr qu'il y avait une vraie décrue et que ça tombe très bien. Ça tombe très bien que les chiffres sont bien meilleurs que ce qu'on croyait, donc cette date elle est évidemment attendue avec impatience. Je rejoins mon interlocuteur de tout à l'heure, c'est qu'on a besoin d'un horizon. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'ouvrir et de... Évidemment que tous les acteurs économiques ont hâte de retrouver une activité pleine le plus vite possible. Et en même temps, ils craignent évidemment la reprise des fermetures, etc. Donc ce qui est important, c'est communiquer. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'ores et déjà communiquer sur le fait qu'il y a un risque, que ce risque, il va être accompagné de mesures appropriées qui vont endommager beaucoup moins l'économie que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, qu'il y a un plan B, si jamais il y a une reprise, qu'on ne souhaite pas et qu'on espère qu'il n'y en aura surtout pas. Mais nous avons appris depuis 15 mois que ce virus était un peu incertain, que là où on croyait avoir vaincu, on ne l'avait pas, que maintenant il y a des vaccins, mais il y a aussi des mutants, et qu'il y a des, enfin, il y a beaucoup d'incertitudes qui font qu'il nous faut des garanties. Tous les secteurs économiques ont souffert de cette incertitude parce que ça empêche de penser à long terme. Mmh. Quand vous êtes sur un mode de survie, vous devez embaucher à court terme, vous devez laisser tomber les projets innovants et se concentrer sur des projets beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus immédiats.
Cette crainte des variants, Jean-Pierre Masse, il y a un exemple qui nous vient évidemment à l'esprit, c'est le Royaume-Uni qui a été un des pays qui a desserré les contraintes le plus rapidement, parce qu'il avait vacciné beaucoup plus vite que les autres pays européens, enfin de l'Union européenne, maintenant il n'en fait plus partie. Est-ce que ça, il a maintenant des craintes par rapport aux variants indiens, ça vous inspire quoi ? De la prudence encore ? Notamment pour les voyages au Royaume-Uni ?
Pour les voyages, globalement, les variants incitent à beaucoup de prudence. On le voit avec l'Inde et tout à l'heure, j'évoquais la situation des Émirats. Les Émirats ne sont pas accessibles aujourd'hui parce qu'il y a une population importante, indienne importante aux Émirats. Donc, la présence des variants est en effet une crainte. On nous dit, alors l'OMS dit, après, je suis pas spécialiste, que les vaccins actuellement utilisés et validés par l'OMS réagissent à tous les variants qui sont en circulation pour le moment. Donc ça devrait être une crainte limitée. Et on ne sait pas et on n'a pas d'informations sur le fait que des personnes vaccinées aient pu être atteintes par un des variants dont on parle. Mais c'est en effet une crainte et ça nuit à la visibilité que Didier Fusillet et Michael Liubartin évoquaient. On a besoin de visibilité. Alors les variants, on n'y peut rien. Mais on a eu quand même une amélioration de la visibilité de la part du gouvernement en matière de calendrier. Ça, c'est une bonne chose.
Didier Fusillet, c'est avec vous que je voulais aller. Psychologiquement, pour le secteur de la culture et des spectacles, dont on a bien compris qu'il avait beaucoup souffert de ce point de vue-là pendant ces derniers mois, un retour en arrière à des contraintes plus resserrées, ça serait très difficile à supporter.
Vous savez, nous l'avons connu, ça a été très compliqué en décembre, puisque les théâtres devraient réouvrir, les musées le 15 décembre, et puis la crise sanitaire étant toujours là, ça n'a pas été possible. Et donc, toutes les salles avaient réembauché des personnels, qui sont souvent aussi des personnels qui sont parfois embauchés pour un mois, voire des jeunes étudiants. On l'oublie, mais des jeunes étudiants sont souvent embauchés pour 4 ou 5 jours, comme ouvreurs, ça leur fait un complément de revenus et tout ça est tombé pendant plus d'un an. Donc, quand on relance la mécanique, évidemment, on relance les emplois, on revend des places et après, il faut réannuler, il faut rembourser. Enfin, ça a été très, très compliqué. Donc, effectivement, c'est ce que tous les intervenants disent. Avoir un vrai calendrier et qu'on puisse y croire, ça va changer beaucoup de choses aussi dans l'enthousiasme aussi que vont avoir les Français sur toutes les propositions qui leur seront faites pendant l'été.
Michael Liubartin, l'objectif d'avoir cette visibilité et cette absence ou cette réduction de l'incertitude, en tout cas, c'est d'éviter le stop and go, parce que là, ça serait se réarrêter de la même manière à nouveau, ce serait insupportable économiquement.
Économiquement, politiquement, socialement, c'est sûr que là, ça nous paraît inconcevable de repartir sur une autre vague, fermeture, etc. Donc c'est vrai que oui, on a besoin de sortir de ce stop and go. Il y a deux possibilités. Une, c'est d'essayer d'éliminer le virus une fois pour toutes, c'est-à-dire prendre des mesures qui font que le virus il circule tellement peu qu'on est un peu à l'abri de tout ça.
Vaccination de masse, c'est de ça que vous parlez.
Vaccination de masse ou alors Oui, la vaccination de masse. Disons que la vaccination est en train d'aider à transformer le Covid en une issue qui peut être gérable d'un point de vue sanitaire. Donc, on n'élimine pas le virus, mais on le rend de plus en plus gérable. Ce que disait tout à l'heure Monsieur Fusillet, je crois que les variants réinfectent les personnes qui sont vaccinées, mais les vaccins offrent une protection très très importante en termes de formes graves. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y aura des vagues d'infection, mais qui ne provoqueront pas une saturation des hôpitaux. C'est pour ça que je dis que ce qui est important, bon, si on n'élimine pas le virus, si on n'arrive pas vraiment à se débarrasser, au moins se débarrasser du virus comme menace de paralyser le système sanitaire. Donc c'est vrai que voilà, ce qu'on voudrait, c'est avoir un horizon et que le pass sanitaire qui n'existait pas avant, qui va être testé cet été à grande échelle en Europe, aussi bien pour voyager que dans plusieurs pays pour socialiser, c'est un outil qui permet de manière très concrète de sortir d'une logique de stop and go. Donc je pense qu'on est nombreux à accueillir cet outil avec beaucoup d'enthousiasme. Non pas que ça nous réjouisse de faire un scanner, de scanner un QR code ou de se faire tester pour accéder à un lieu de socialisation, mais à la fin de l'été, on aura une grande fraction de la population qui sera vaccinée et on aura la possibilité de reprendre une vie sociale qu'on interromprait seulement le temps où on serait qu'à contact, mais que la vie sociale pourrait continuer même s'il y a une reprise épidémique dans quelques endroits.
Jean-Pierre Masse, les clients, vous nous l'avez dit depuis début ou mi-juillet, mi-mai, pardon, ils sont revenus en masse sur les sites internet des agents de voyage, des compagnies aériennes. Ils vous paraissent particulièrement enthousiastes ou un peu prudents, un petit peu échaudés quand même. On va peut-être partir, mais peut-être pas trop loin. Enfin.
Alors, les deux. D'un côté, on sent très nettement l'envie de partir, l'envie de voyager. On sent en quelque sorte une soupape qui relâche la pression. Et de notre côté, on veut de la sécurité, on veut de la réassurance, on veut être sûr de pouvoir être remboursé si la destination dans laquelle on va n'est pas accessible. Et c'est un engagement qu'on a pris d'ailleurs et qui sera respecté. Donc il y a quand même à la fois la volonté de voyager et en même temps la crainte. Et je crois que Les Français, globalement, et les voyageurs en particulier, n'accepteraient plus le stop and go. Il était acceptable parce qu'il n'y avait pas de vaccination l'an dernier. Cette année, on s'oriente vers l'immunité collective. Et s'il y avait un phénomène de retour en arrière, ça poserait des problèmes sociaux plus importants qu'on ne l'imagine.
Justement, Didier Fusillé, les festivaliers, vous organisez des événements qui sont festifs. Oui. Les gens, ils ont besoin, ils ont envie, mais est-ce que, par exemple, ce week-end au festival Villette Sonic, ils ont été raisonnables, ils sont restés, moi j'ai vu des photos, il y avait des cercles hein, dans l'herbe, et ils sont restés dans ces cercles, ça s'est passé avec un enthousiasme, d'accord, mais avec prudence.
Oui, je crois que tout le monde est très raisonnable, hein, et je crois que tout le monde a envie d'être vacciné, enfin tout le monde sans doute pas, mais tous ceux qui veulent sortir, donc effectivement ils accepteront le pass sanitaire, mais il ne faut pas oublier que depuis quelques années, on est dans un monde très contraint avec Vigipirate. Quand vous allez au théâtre aujourd'hui, on doit ouvrir son sac, on se fait fouiller, maintenant il faudra amener son pass sanitaire, enfin vous voyez, il faut ne pas être à côté de quelqu'un, porter un masque. Enfin, il faut imaginer cette somme qui nous est tombée dessus depuis maintenant plusieurs années. Et je crois qu'il faut absolument, en terme, on essaie de revenir le plus possible à une certaine légèreté pour qu'on vive mieux.
Michael Oliou-Barton, il nous reste un peu moins d'une minute et je vais vous demander de répondre à une question un peu compliquée en fait, rapidement. La méthode de sortie pour les aides d'État avec des paliers d'ici à la fin de l'été, est-ce qu'elle vous paraît adaptée ?
Ou alors, je suis pas sûr d'être le plus compétent pour répondre à cette question. Et en une minute, c'est un peu compliqué, je sais pas.
C'est un petit peu compliqué. Jean-Pierre Masse.
Oui, elle est adaptée puisqu'elle est liée aux évolutions de chiffre d'affaires. Plus de chiffre d'affaires, plus l'activité reprend, plus les aides d'État baissent. Donc l'État a bien accompagné les entreprises et il va continuer à les accompagner pour la reprise.
Merci beaucoup Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage. Merci à nos autres interlocuteurs, Didier Fusillé, président de l'établissement du Parc et de la Grande Halle de la Villette, Festival Flamenco de la Villette du 9 au 12 juin. Et merci également à Michael Oliou-Barton, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, d'avoir été nos interlocuteurs et d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve pour un nouveau débat demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
Viva Technology.